malandreux. Ichi, ni de grue, ni de gueuse, encore moins de batifoleuse. Les saltimbanques, tous des feignants. Mademoiselle, viens pour la chambre. Près du mur, vous avez le lit surmonté de taches moisies. Pas de messieurs dans le boudoir. Pas de bonhomme dans l'enceinte. La dernière est tombée enceinte. Le syndicat a porté plainte et l'a jetée sur le trottoir. Et je vous interdis d'entrer la nuit venue dans le grenier. Mademoiselle, viens pour la chambre. J'espère que vous n'êtes pas malade. Oh, rien de pire que les jérémiades d'un grabataire ou d'un mourant. Pas de fenêtre, pas d'espoir. On s'habitue pour les cafards. Si ça gigote dans l'armoire, ce sont les rats, assurément. Mademoiselle, viens pour la chambre. Si on vous pose des questions au sujet des disparitions survenues près du grand boulevard, gardez-vous de faire la commère. Mon mari et moi, on préfère l'oubli plutôt que de faire taire à coups de gourdin les mouchards. Et je vous interdis d'entrer la nuit venue dans le grenier. Mais je vous interdis d'entrer la nuit venue dans le grenier.
Radio Cartable.
Bonjour.
Vous êtes bien sur Radio Cartable.
La radio des écoles d'Ivry.
Nous sommes le jeudi 18 décembre.
On est dans la classe de moyenne section et de grande section.
Notre classe a reçu une lettre de monsieur le décideur des cours d'école.
Il y a vite des enfants.
On va avoir un carrousel dans la cour pendant les vacances de Noël.
On a bien mérité. On a bien travaillé et on a été sages.
Ça serait cool.
On ne sait pas comment ils vont l'installer.
On ne sait pas si c'est vrai.
On ne sait pas si c'est faux.
Parce que c'est pas encore installé.
On verra ça à la rentrée du mois de janvier.
C'est l'heure de Radio Cartable, la radio des enfants des écoles d'Ivry. Et aujourd'hui, nous écoutons le travail autour de l'EMI, réalisé l'année dernière par les moyennes sections et grandes sections de l'école Marie-Anne pour la vérification de l'info, par les C1 de l'école Rosaline Franklin autour de la Chasseau et de l'interview de Nicolas Nicolet, et de Laure Vandenin autour du
L'éléphant rencontre un dauphin qui lui donne des consignes
et lui trouve ses beaux bras.
Tout à coup un signe,
il danse avec sa famille
en sautant sur les lignes. nous chantent parfois quand ils vont se marier.
Il faut se fixer ses clous, clous, clous.
Moyenne section, grande section de l'école Gabriel Péri, la classe numéro 4.
Les 17 ans de cours d'école et carrousel.
Elle dit qu'on va avoir un carrousel dans la cour pendant les vacances de Noël.
À la rentrée du mois de janvier, on a des reflets partout dans les coins.
Pas grouillé.
Regarde.
Eh ben, en fait... On n'a pas son numéro de téléphone à monsieur décideur de compte d'école et on a son adresse.
On a cherché à l'aide des enfants sur la carte du monde, mais on l'a pas trouvé.
On voulait savoir si dans la lettre, elle était vraie ou fausse.
On est à la poste.
On a posé des questions à la postière.
Et elle a dit que le timbre et l'enveloppe étaient vrais.
Le timbre, il est vrai ou faux?
Oui, Amira, le timbre, il est vrai. C'est ce qui te permet d'envoyer la lettre à la ville des enfants. Alors, la lettre, elle est vraie.
La ville des enfants ici.
Mais c'est pas en France.
Est-ce que vous connaissez la ville des enfants?
Ok, oui, on la connaît. On connaît tout à la poste. On connaît exactement l'adresse de la ville des enfants.
Elle est par où, la ville des enfants?
Alors, la ville des enfants, elle est très loin et elle est pas en France.
Elle dit que la lettre est bien écrite.
La postière, elle sait pas si c'est vrai ou faux.
Est-ce que à l'intérieur de la lettre, elle est vraie ou faux?
Alors, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est bien écrit. On a le détail.
Est-ce que le décideur des cours d'école existe?
Oui, le décideur d'école existe.
Elle dit que le décideur des cours d'école existe. On le connaît pas.
On a décidé d'écrire au président de la République parce que lui, c'est tout, tout sur le monde et la France.
On va continuer notre enquête.
Au revoir.
Sur la page blanche,
les doigts sur le clavier, prêt pour la deuxième manche. On
s'interroge et on tâtonne pour la nouvelle chanson.
On s'investit, on réfléchit, faut que ce soit un carton.
Un truc qui fasse waouh, quelque chose qui fasse boum, dans les consciences et dans les cœurs,
l'effet d'un coup de foudre.
Une chanson utile qui sensibilise,
un sujet de société qui nous électrise, ouais.
Passer une heure à tyranniser les mots,
passer deux heures à faire chanter le piano.
On a la tête en feu et le corps engourdi.
C'est le moment de mettre la compo en sursis.
Alors, on branche le poste, une fois n'est pas coutume.
Adieu Pelli, c'est la radio qu'on exhume.
On est mûr pour se confronter au monde
et voir quel disque va passer sur les ondes.
Ondes, 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 ondes.
Bonjour.
Bonjour.
On est la classe de grande section, moyenne section de l'école Gabriel Péri.
Si c'est pas de quoi l'école de Caboussave.
On va faire une enquête sur la ville des enfants.
Les décideurs de cours d'école.
On veut savoir ce qui est vrai ou faux.
La directrice de l'école Gabrielle Perry répond aux enfants.
Si elle connaît monsieur le décideur des cours d'école.
Est-ce qu'il existe ?
Est-ce que je connais le décideur des cours d'école ? Oui, je sais qui décide un peu des cours d'école.
Est-ce que tu le connais ?
Alors, ce n'est pas qu'une personne qui décide. Il y a plusieurs personnes qui décident pour les cours d'école. Mais je le connais, oui. Je sais qui c'est pour notre école maternelle Gabrielle Perry. Les personnes sont en France, à Ivry-sur-Seine. Et qui sait, alors, en tant que directrice d'école, je peux donner mon avis sur les cours d'école, mais ce sont des personnes qui travaillent à la mairie qui décident de l'aménagement des cours d'école. Qui décident si on peut mettre un carrousel, ou si on peut pas mettre de carrousel, ou si on peut mettre d'autres jeux, par exemple.
À la mairie, il nous a dit que c'était pas le marque qu'on voyait la lettre.
Mais le décideur des cours d'école, il habite à la mairie.
Au service, on pense en ses mamans.
Par les collégiens de 6e, on a appris que le code postal 00 ville des enfants, ça n'existait pas. On a cherché sur Google et ChatGPT, mais la ville ou le pays des enfants n'existe pas.
Il y a plusieurs endroits qui pourraient être pour les enfants.
Comme Stockholm, c'est la ville où les gens sont le plus heureux.
Le village du Père Noël, en Laponie.
Au début de notre recherche, on croyait que c'était vrai. Maintenant, on sait que c'est faux.
La lettre est une fausse information.
Il ne faut pas toujours tout croire. Il faut vérifier.
Du coup, on écrit au maire pour avoir un carrousel parce que c'est lui qui décide dans l'école. Au revoir.
Merci aux personnes qui ont aidé les élèves pendant leur enquête. Anne-Charlotte Ambrosi, coordonnatrice REP, Stéphanie Mazuet, documentaliste du Collège Vallon, et les collégiens, la postière, les CPB de l'école Maurice Thorez B, la directrice de l'école Gabrielle Perry, et enfin, l'accueil de la mairie.
Actualité
d'ici
et d'ailleurs.
D'ici
et d'ailleurs.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Flash Info des soins de l'école Rosanne Franklin.
Aujourd'hui, nous allons parler d'animaux étonnants, de la nature, d'histoire et même d'un taxi volant. Grâce à un journal, le Petit Quotidien, un journal fait pour les enfants. C'est parti!
Nous lisons le Petit Quotidien tous les jours. Mais savez-vous comment il est fabriqué ?
D'abord, les journalistes écrivent les articles sur ordinateur et choisissent les photos. Ensuite, les pages sont agrafées sur de grandes plaques en aluminium avec différentes couleurs d'encre.
Le journal est imprimé sur d'immenses rouleaux de papier qui peuvent peser une tonne.
Enfin, les journaux sont transportés pour arriver dans les boîtes aux lettres.
Tout un travail d'équipe.
pour lire les informations chaque matin.
On change de sujet.
Une arrivée très spéciale.
Les deux premiers wombats à vivre en France sont arrivés au zoo de Beauval.
Les wombats sont des animaux d'Australie qui ressemblent à des petits ours.
Une découverte pleine de douceur pour les visiteurs du zoo.
Une date importante dans l'histoire.
Le 8 mai, nous avons célébré la fin d'une terrible guerre.
Cette guerre est terminée depuis 80 ans.
Une journée pour se souvenir et défendre la paix.
Accrochez vos casques, ça va bouger.
Une histoire impressionnante maintenant.
Aux États-Unis, une montgolfière a dû se poser en urgence.
Elle a atterri dans le jardin d'une maison.
Une surprise géante pour les habitants.
Direction maintenant la Guyane française.
Talin est un village guyanais situé au bord d'un fleuve au cœur de la forêt amazonienne.
Pour rejoindre les villages, il faut voyager longuement en pirogue sur le fleuve.
Les habitants vivent dans des maisons ouvertes et dorment souvent dans des hamacs.
Les enfants vont à l'école du village apprendre le français, mais aussi la langue guyana.
Une culture riche et une vie très proche de la nature.
Des infos, des infos, des infos.
Toujours dans la forêt amazonienne.
En Guyane, le parc amazonien abrite une immense forêt pleine d'animaux étonnants.
On peut y voir des paresseux, des toucans, des tatous, des serpents-liens et même des opossums.
Les scientifiques étudient ces animaux pour mieux protéger la nature.
Une forêt extraordinaire, riche en animaux et en biodiversité.
Info surprenante.
Une performance incroyable maintenant.
Un homme a battu un record du monde en gravissant 32 fois la plus haute montagne du monde.
Cette montagne est l'Everest qui culmine à plus de 8800 mètres d'altitude.
Un exploit qui demande beaucoup de courage et d'endurance.
Ouvrez grand vos oreilles.
Une invention qui ressemble au futur.
Un taxi volant vient d'être testé à New York, aux États-Unis.
Il peut transporter des passagers dans les airs.
Peut-être les voitures du futur.
Une route spectaculaire maintenant.
Au Japon, une route passe entre deux énormes murs de neige.
Les murs sont plus hauts que les voitures.
Un paysage impressionnant comme dans un film.
Une découverte très ancienne maintenant.
Une espèce très historique de koala a été découverte.
Cet animal vivait il y a très longtemps en Australie.
Les scientifiques continuent à découvrir le passé de notre planète.
Attention, acte toute fraîche.
Direction maintenant le Brésil pour une rue très colorée.
Une rue a été décorée avec d'immenses drapeaux de pays du monde entier.
Les habitants ont installé ces décorations au-dessus de la rue.
Une belle façon de célébrer les cultures du monde.
Une nouvelle triste maintenant pour les animaux marins.
Une baleine qui avait été sauvée et remise à la mer
a finalement été trouvée morte 2 semaines plus tard.
Elle était restée bloquée sur le sable pendant plusieurs semaines avant d'être libérée.
Malgré les efforts des sauveteurs, l'animal a été sans doute trop affaibli.
Ce n'est pas fini, encore une actu.
Info importante pour les océans.
Des scientifiques français veulent mieux protéger les herbiers marins.
Ces plantes sous l'eau servent d'abri à beaucoup d'animaux marins.
Les océans ont aussi besoin d'être protégés.
Des infos.
De bonnes nouvelles pour la nature.
Les rhinocéros sont de retour dans la nature en Ouganda.
Ils avaient disparu à cause de la chasse.
Au Kenya, ce sont des antilopes d'une espèce rare qui ont été relâchées dans la nature.
Cette opération doit aider les espèces à se développer et à survivre.
Une belle victoire pour les animaux sauvages.
Et pour finir, une idée étonnante pour aider la mer.
Des sons de vie sous-marine sont diffusés dans l'eau.
Les scientifiques espèrent ainsi faire revenir les coraux et les poissons.
La science cherche de nouvelles solutions pour protéger les océans.
Merci pour avoir écouté le Flash Info de CE1A. À très bientôt pour un nouveau journal.
Actualité
d'ici
et d'ailleurs.
Cartable.
Reportage dans mon cartable.
Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Alors, je m'appelle Basile Debure, je suis journaliste indépendant. C'est-à-dire que je ne travaille pas que pour un seul journal. Mais aujourd'hui, je suis venu pour vous parler du Petit Quotidien, qui est donc le journal pour lequel je travaille.
Depuis combien de temps vous êtes journaliste ?
Alors moi, je suis journaliste depuis 2006. J'avais 18 ans quand j'ai écrit mon premier article. Vous pourrez faire le calcul pour deviner mon âge. Et je suis au Petit Quotidien depuis 2015. Ça fait 11 ans que je travaille pour le Petit Quotidien.
Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
Alors, pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'adore écrire. Moi, ma matière préférée quand j'étais à l'école, c'était les rédactions. J'adorais écrire des histoires et donc j'avais envie de trouver un métier où je pouvais continuer à écrire. L'autre raison, c'est aussi parce que je suis très curieux. J'adore découvrir des choses et découvrir des personnes. Ce qui est génial quand on est journaliste, c'est que c'est tous les jours différent et on rencontre plein de personnes. Et la dernière raison, c'est aussi important, c'est que moi, mes deux parents, ils sont journalistes. Donc depuis que je suis tout petit, j'ai découvert ce métier. Et en les voyant, ça m'a donné envie de le faire aussi.
Est-ce que vous vous sentez bien dans votre travail ?
Qu'aimez-vous faire le plus dans votre métier ?
Oui, je me sens très bien. J'adore mon métier. Journaliste, c'est un métier passionnant. Alors moi, j'adore les interviews. Vous vous rappelez, c'est quand on pose des questions à quelqu'un pour découvrir sa vie ou pour apprendre des choses. Moi, j'adore rencontrer les gens. Donc quand je rencontre quelqu'un et que je peux lui poser des questions, je trouve que c'est toujours super et on a toujours plein de surprises.
Que trouvez-vous de difficile dans votre métier ?
Alors, il faut tous les jours trouver des nouvelles idées, des nouveaux sujets sur lesquels écrire. Et ça demande beaucoup de travail quand même. Ce qui est difficile, c'est de se reposer, de s'arrêter. Moi, je réfléchis toujours à mes articles. Quand je rentre chez moi, parfois, j'ai envie d'écrire jusqu'à tard dans la nuit. Donc, il faut réussir à couper, à penser à autre chose. Parce que quelquefois, quand on travaille sur un sujet, on y pense tout le temps.
Que faut-il apprendre à l'école pour devenir journaliste ?
Alors c'est important de bien savoir écrire, donc je dirais que les cours de français c'est quand même utile, mais ce qui est bien avec ce métier c'est que tout est utile en fait. L'histoire, quoi d'autre, les cours d'anglais pour apprendre à parler d'autres langues, les sciences, en fait tout vient nourrir ce métier. Moi je dirais que le plus important c'est d'être curieux, de s'intéresser à tout, et c'est comme ça qu'on devient un bon journaliste.
Comment vous avez appris à bien parler anglais ?
En fait l'anglais à l'école j'étais pas très fort, mais j'ai vraiment appris en voyageant là-bas. Quand on va dans les autres pays et que du coup on est un peu obligé de parler pour se faire comprendre, et ben petit à petit on se met à apprendre la langue. Donc moi j'y suis allé plusieurs fois, j'ai eu cette chance. Au début j'étais pas très fort et puis au fur et à mesure, à force de parler avec les gens, de les écouter, de les comprendre, et ben ça m'a permis de bien maîtriser cette langue.
Quelle est votre matière préférée à l'école ?
Alors j'aimais beaucoup le français parce que j'adorais les rédactions et sinon je dirais l'histoire. Moi j'adorais l'histoire, étudier les grands événements, je trouvais que c'était passionnant.
Dans quelle école vas-tu ?
Alors moi j'ai grandi dans le centre de Paris, dans le 5e arrondissement. Donc j'étais dans une école là-bas, j'étais dans un collège qui s'appelait Pierre Alvizet. Je me suis mis à écrire mes articles tout de suite après mon bac. À partir de 18 ans, j'ai essayé de devenir journaliste et de vendre mes articles. En général, quand on devient journaliste, on peut faire une école. Il y a des très bonnes écoles de journalistes, ça dure 3 ans. Mais on peut devenir journaliste en passant par plein de cursus différents. Et aujourd'hui, bah, je continue à aller dans des écoles puisque je vais parler de mon métier. Et ça, c'est super parce que ça peut être partout en France. Dans des villes, dans des villages, à la campagne, vraiment partout. Et ça, c'est vraiment passionnant.
Avez-vous un autre travail ?
Plus maintenant. Au début de ma carrière, j'étais pas que journaliste parce que c'est pas toujours facile de gagner beaucoup d'argent. Donc quand j'étais un jeune journaliste, je travaillais toujours à côté. J'étais vendeur, j'ai été livreur de sushis, j'ai été quoi d'autre, hôte d'accueil, j'ai fait plein de métiers comme ça. Mais maintenant, j'arrive à vivre de mon métier, donc je suis que journaliste. Et aussi, j'écris des livres. J'ai écrit un livre sur le foot, sur les ados qui rêvent de devenir footballeurs professionnels. J'ai pas mal écrit sur le sport, mais j'ai aussi écrit, par exemple, moi je travaille beaucoup sur la justice. J'ai écrit un livre sur la prison, où j'ai rencontré des personnes qui avaient été condamnées par la justice pour suivre un petit peu leur trajectoire, comprendre comment ça se passe. Donc moi, mes deux sujets de prédilection, c'est le sport et la justice. Très différent.
Est-ce que vos parents vous ont montré quelque chose sur le Petit Quotidien ?
Alors oui, moi je le lisais quand j'étais petit. Le Petit Quotidien, il existe depuis 1995. C'est-à-dire que quand j'avais votre âge, ça existait déjà. Donc moi, je le lisais à l'école. Donc ce journal, ouais, je l'ai découvert, enfin ma maman elle me le faisait lire parfois. Donc absolument, j'ai pu le découvrir, tu vois, depuis mon plus jeune âge.
Est-ce que vous êtes journaliste de génération en génération ?
Alors oui, c'est mon cas. Pas de génération en génération, mais mes parents en tout cas, ils étaient tous les deux journalistes, et même ma grande sœur aussi, elle est journaliste. Il y en a beaucoup dans la famille, et c'est souvent comme ça les journalistes, hein. Il y a souvent des familles de journalistes, mais en France en général. Il y a ce qu'on appelle beaucoup de reproduction sociale. C'est-à-dire qu'on a souvent des enfants qui font le même métier que leurs parents. Et c'est vrai que c'est mon cas. Et ça m'a donné vachement envie de devenir journaliste parce que ce qu'ils faisaient, ça avait l'air passionnant. Donc, j'avais envie de faire pareil.
Quels sont vos jours et horaires de travail ?
Alors moi, je travaille du lundi au vendredi. Je me repose le week-end quand même. Mais j'ai certains collègues qui travaillent le week-end aussi. Et je travaille, je commence à travailler à peu près vers 9h et je m'arrête vers 18h le soir. Mais j'ai des collègues qui travaillent plus tard, qui peuvent faire la maquette jusqu'à 21h. Et à l'imprimerie, il y en a même qui travaillent la nuit.
Est-ce que c'est bien payé d'être journaliste ?
La question qui tue. Je dirais bof. En fait, il faut savoir que les journalistes, ils ont des salaires très différents. Il y a plein de différents journalistes en France. Il y en a qui gagnent très bien leur vie. Par exemple, les présentateurs que vous voyez à la télé, on a parlé du JT de TF1 tout à l'heure. Le présentateur du JT de TF1, il gagne beaucoup d'argent. Moi, je suis un journaliste indépendant qui fait des reportages et des interviews. Je ne gagne pas forcément beaucoup d'argent. C'est surtout dur au début. Quand on commence sa carrière de journaliste, c'est un peu difficile. Aujourd'hui, ça va, mais je peux vous donner un chiffre. Moi, je pense que je gagne autour de 2000 euros par mois. Ce qui est très bien, moi je suis très content. C'est un salaire qui est très chouette, mais quand on est adulte et qu'on a plein de choses à payer, c'est pas toujours beaucoup.
Est-ce que vous explorez le monde ?
Alors ça m'est arrivé, oui, j'ai fait des reportages dans d'autres pays. Moi je suis beaucoup allé aux États-Unis parce que je parle bien anglais, donc ça me permettait d'aller interviewer les gens là-bas. Le plus grand voyage que j'ai fait pour mon travail, c'était pendant 3 mois. Je suis parti aux États-Unis 3 mois, j'ai voyagé dans tout le pays, et c'était au moment de l'élection d'un président. Avant Donald Trump, il y avait un président qui s'appelait Barack Obama. C'était le premier président noir aux États-Unis. Et je posais des questions aux Américains pour comprendre pourquoi ils avaient voté pour lui, pourquoi ils l'aimaient bien ou alors pourquoi ils ne l'aimaient pas. Et je m'étais promené pendant 3 mois dans tout le pays. J'étais allé dans plein de villes et c'était passionnant. Aujourd'hui, je travaille plutôt en France. Je fais moins de reportages à l'étranger.
Reportage dans mon cartable. Reportage dans mon cartable. Mon cartable. Reportage dans mon cartable.
Vous allez entendre la rencontre entre Laure Vandeninde, ancienne photojournaliste, et le public présent au Petit Robespierre le 22 novembre 2025 pour la journée des droits de l'enfant.
J'ai donc été journaliste en presse écrite pendant 5 ans. Donc c'est pas très longtemps, mais pendant 5 ans. Donc j'ai appris à écrire une information sourcée, qui soit factuelle, à vérifier l'information, à la rédiger, à la mettre en forme. Et ensuite, je suis devenue photojournaliste. Donc là, mon métier a changé, mais néanmoins, ça restait au service de l'information. Mais mon médium principal est devenu l'image. Ceci dit, une image n'a aucune valeur si elle n'est pas accompagnée d'une légende. Et cette légende, c'est l'information.
Alors, on viendra sur les détails après par rapport au fait que tu ne travaillais pas dans un journal directement, mais dans une agence de presse. Et là, juste, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as amené comme photo, puisqu'on a beaucoup de photos étalées devant toi?
Bien sûr. J'ai fait exprès de prendre des photos assez variées, dans des thèmes variés. Je dirais que c'est un peu le reflet de mes journées. Je ne faisais jamais la même chose, je n'étais jamais au même endroit. Et dans une même journée, je pouvais couvrir entre 2 et 4 sujets. Alors, je précise qu'il n'y a pas de légende qui accompagne les photos. Donc forcément, il n'y a pas de contexte. Donc c'est justement ça qui est important. Les 5 W, enfin en tout cas, le contexte est très important. Quoi, comment, où, pourquoi. J'ai pas mal de photos alors en politique. Donc j'ai couvert les élections de 2012. Je voulais aussi montrer qu'on couvre des événements saisonniers, donc on appelle ça aussi des marronniers, qui reviennent tous les ans. Donc ça peut être le marathon. J'ai couvert des événements loisirs, culture, divertissement, donc les Césars, le Festival de Cannes. Voilà, j'ai aussi fait des photos de concerts. J'ai suivi des hommes et des femmes en politique. Et j'ai aussi couvert les Fashion Week. Donc, l'idée, c'était de faire des photos de défilés, mais en fait, le plus important, c'était de faire des photos de célébrités. Là, il n'y a pas de regard particulier, c'est juste obtenir la photo, peut-être l'obtenir mieux que le voisin, et l'envoyer très vite pour la vendre.
Reportage dans mon cartable.
C'est qui ?
Des supporters.
Il a reconnu que c'est des supporters.
Oui.
Ça concerne le foot.
En effet.
Voilà.
Oui.
C'est ce qu'il a dit.
Tu veux que je t'en parle ? C'était l'Euro en 2016. C'était la France contre le Portugal. Ce sont des zones où les supporters se réunissent face à des grands écrans. Donc il faut être accrédité, évidemment. On ne rentre pas dans cet espace n'importe comment. On a le droit d'aller dans des fosses, les endroits vides entre l'écran et les supporters. Seuls les photographes ont le droit d'aller. Donc on peut naviguer de droite à gauche et on fait ce qu'on veut. On est plutôt libre. Par contre, on peut aussi choisir d'aller en plein milieu de la foule. Est-ce que je peux aller là ? Qu'est-ce que ça donne si j'essaye ça ? Et si je me rapproche ? Et si je me recule ? C'est le principe de la photo. Et là, on se dit, bon, qu'est-ce que j'ai envie de montrer et qu'est-ce que je vois qui peut être visuellement intéressant à montrer. On peut prendre un élément, mais on peut prendre aussi toute la scène. Donc, dans ces 6 photos, pour revenir à ce cheminement-là que j'ai voulu montrer, je montre au loin, je me rapproche avec la foule et une personne, je me rapproche encore. Et là, je pense qu'on n'est pas loin peut-être de marquer un but et la foule commence à s'agiter et à montrer comme, voilà, son émotion très forte. Et ce qui est intéressant, c'est de prendre les expressions des supporters, la fougue. Et en fait, au bout d'un moment, en fait, la France perd. Et là, on voit l'émotion, les gens qui commencent à prier, on voit des grimaces et on voit les pleurs, quoi. Quelque chose que j'ai voulu montrer, évidemment, puisque c'est ce qui s'est passé.
Oui, petite question par rapport au droit à l'image. Est-ce que vous êtes autorisé, quand vous prenez des photos dans un stade, aller divulguer sur n'importe quel sur n'importe quel support après.
Alors en fait, c'est l'actualité, c'est-à-dire que quand il y a une actualité et que en plus c'est dans un lieu public, l'actualité prime, surtout quand il y a un effet de foule et que c'est la foule, ça prime sur le droit à l'image, enfin sur le voilà, de la personne en tout cas, voilà. Parce que le droit d'auteur, c'est côté photographe, c'est les droits que moi j'ai sur mes photos. Le droit à l'image, c'est la personne qui peut dire « Ah, moi, j'ai pas envie d'être pris en photo. »
Mais après, pour la publier, vous êtes propriétaire.
Oui, moi, je reste propriétaire de mes photographies. Aujourd'hui, en numérique, le fait d'avoir des photos dans un format RAW, R-A-W, c'est la preuve que ce sont mes photos, d'un point de vue technique. Le fait qu'elles soient diffusées, bien sûr, on ne le voit pas ici, mais celles qui sont diffusées, il y a marqué... c'est copyright Laure Vandenynde / agence, sachant que les agences peuvent se revendre les photos. Alors une agence de presse, c'est un organe de médias qui va recueillir toutes mes photos, qui va parfois légender pour moi mes photos, mais moi je faisais tout de A à Z, et qui elle a des contrats avec toute la presse, alors ça dépend donc des agences, en France et à l'étranger. Donc quand eux reçoivent la photo, ils vont proposer mon reportage ou mes photos aux magazines, aux journaux avec lesquels ils travaillent.
Dans la photo que j'ai choisie, j'ai remarqué que c'est dans la 40e cérémonie du César. Et que là, il y a deux acteurs qui l'ont remporté.
À gauche, c'est Kristen Stewart. Un film de vampire très connu, Twilight. Hein. Et à droite, c'est Sean Penn. Donc là, il n'y a pas de démarche particulière. Il faut que cette photo soit juste techniquement propre et que je l'envoie très vite. Parce que voilà, en agence de presse, là, c'est être là au bon moment. À l'extérieur, je me suis placée une heure avant, voire deux heures avant, devant les barrières pour avoir les photos. Ensuite, on est accrédité, on rentre. Là, c'est quand les acteurs arrivaient comme une sorte de tapis rouge, ils défilaient. Et surtout, c'est que j'essayais de prendre des photos où les gens me regardent, ou donnent l'impression qu'ils me regardent. C'est un peu la pagaille, c'est-à-dire qu'il y a tous les photographes en ligne, et en fait, on crie. On dit « Hé, Sean Penn, je suis là, regarde, oh, salut !» Voilà, pour avoir le regard, l'attention, une belle expression. C'est un exercice un peu particulier. Et en effet, il faut courir, c'est très physique. Il faut évidemment avoir le matériel prêt, les piles, la carte mémoire, hein, évidemment, je le précise, mais néanmoins, ce n'est pas un détail. Ça arrive qu'il y ait des soucis pour avoir une jolie photo qui puisse être diffusée facilement.
Est-ce qu'ils ont le droit de porter plainte parce que vous avez pris la photo ?
Non, en fait, ils sont là pour ça. Ils sont très beaux, ils sont bien habillés. Donc en plus, même leurs vêtements, il y a des marques. Ce n'est pas par hasard. Ils vendent ces marques, hein, c'est comme à Cannes. Ils sont en lice pour obtenir justement le César. Donc au contraire, ils sont tout à fait partants. Ils sont très contents d'être pris en photo. Ça leur fait de la publicité. Les acteurs ont besoin de se faire connaître et de faire connaître leur travail pour exister. Par contre, je précise qu'en effet, des photos qui sont prises chez eux, à leur insu, et qu'ils ne le souhaitent pas dans la rue, là, en effet, ils ne sont pas contents. Ils ne portent pas plainte parce que c'est un peu le jeu aussi quand on est célèbre. C'est pas simple pour eux. Là, dans ces cas-là, en effet, il y a un problème éthique.
Le monsieur, là, il est en train de faire du ski. En fait, j'ai jamais vu, il y a de la neige sur la tour Eiffel, moi. C'est la première fois que je vois ça sur une photo.
Alors, ce sont des photos de Paris, sous la neige. Ça aussi, ça fait partie du travail de photojournaliste. Dès qu'il y a quelque chose de nouveau, c'est le principe de l'information de l'actualité, c'est quoi de neuf ? S'il y a quelque chose de nouveau, il faut en parler. Donc à l'écrit, ou à la radio, ou en photo. Il se trouve que quand il neige, c'est très visuel. Quand il s'est mis à neiger à ce moment-là, je suis partie très tôt le matin. Je me suis dit, je vais aller à la Tour Eiffel, je vais aller à Montmartre, je vais aller sur les sites les plus reconnaissables pour qu'on se dise, ah oui, c'est bien Paris. Et je vais prendre les plus jolies photos que je peux avec Paris sous la neige. Donc là, ce que tu vois, il y a en effet la Tour Eiffel avec de la neige. On voit des gens qui skient. Ils sont avec du ski de fond. Donc c'était assez étonnant. J'étais très contente de les trouver. Je trouvais que ça pouvait faire une belle photo. Et pour l'anecdote, là, c'est ces gens qui sont en ski de fond. J'ai pas pu faire la photo que je voulais. J'étais très contrariée. parce qu'il y avait des caméramans qui leur couraient après. Et on était tous en train de se battre pour avoir la photo, parce que des gens, ce qu'ils font avec la tour Eiffel, la neige, c'était quand même très visuel et très beau à faire. Et je voulais une pleine page. Pleine page, ça veut dire une photo horizontale. Je vais vous expliquer pourquoi. Là, la photo que tu as, elle est verticale. Mais parce qu'il y avait une caméraman qui me bloquait l'accès à cette belle photo que j'imaginais dans ma tête. Pourquoi une pleine page horizontale ? C'est parce que les magazines vont acheter une photo qu'ils vont imprimer sur deux pages, comme ça. Et c'est des photos qui coûtent très cher. Donc, pour moi, c'était très bien que je fasse une photo horizontale. Là où tu vois une personne avec une luge, c'est Montmartre. C'est-à-dire que, tu sais, il y a une butte, et avec la neige, les gens sont venus avec leur luge et se sont mis à faire de la luge à Montmartre. Mais c'est ça qui est rigolo, moi, je trouve, dans cette photo, c'est qu'en fait, les gens, ils se sont adaptés, et ça peut faire une belle image et peut-être une belle histoire. Pourquoi ces photos-là, vous pouvez me dire, il n'y a rien d'incroyable. Des fois, on ne fait rien d'incroyable, mais c'est une actualité. Il neige à Paris, c'est une information.
Reportage dans mon cartable.
Sur cette photo, je vois le président Macron qui est jeune, dans une salle avec plein d'autres personnes, et il n'est pas encore président.
Là, c'est une photo d'Emmanuel Macron. Donc, en fait, cette photo, c'est à l'époque le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, qui visite l'Eurosatory, donc c'est au Bourget. C'est un salon international qui parle de la défense et de l'armement, le 16 juin 2016. Il y a de nombreux photographes qu'on ne voit pas, là on voit juste le résultat, mais derrière moi, on doit être, je pense, une quinzaine, vingtaine. Comment dire, on se bat un peu, mais gentiment, hein, parce que ça reste bon enfant, pour en effet avoir le bon angle, pour avoir cette photo où en fait il est quand même dans un char. Donc déjà, il y a quelque chose d'assez visuel qui intéresse tous les photographes. Et il faut aussi se dire que là, on nourrit une certaine communication, en fait. Donc nous, dans ce cadre-là, on va faire la photo, les photos. Et là où ça peut être intéressant, c'est qu'on peut se décaler et peut-être apporter un autre angle et peut-être aller prendre l'image qui n'est pas attendue. L'image en question, en tout cas, on voit Macron, on voit le char, on voit... Voilà, on peut y avoir un symbole, je ne sais pas, de puissance. Puis voilà, c'est la défense quand même, ce n'est pas neutre. Il y a quand même... lui, il veut montrer quand même la puissance. Et bon, cette image, bon, relate l'événement. Et après, le média qui va peut-être acheter cette photo, parce qu'on ne le sait pas, hein, lui, il va accompagner cette photo d'un texte. Et moi, je ne sais pas de quel texte il s'agit. Ça peut être peut-être à charge, mais ça peut être aussi un autre discours, en fonction d'ailleurs de l'obédience du magazine. Voilà, et ça c'est aussi, certains photographes refusent de diffuser leurs photos dans certains magazines.
La mamie là, non, la senior là, et avec les cheveux, c'est la reine de l'Angleterre.
La reine Elisabeth, oui, qui est décédée. Et en effet, en fait, là, c'est à l'Élysée. Et en fait, François Hollande, à l'époque président de la République, a reçu la reine Elisabeth II. En tant que photographe, on est accrédité. On est tous la meute de photographes dans un espace réservé. Et on prend la photo où ils se disent bonjour, où ils font des sourires. Et voilà, c'est tout. Donc, c'est très officiel. Mais c'est un beau souvenir parce qu'elle avait fait, elle avait fait une visite et elle était allée dans plusieurs endroits connus de Paris et on l'avait suivie à plusieurs endroits. Voilà. Il y a aussi une photo qui m'amuse beaucoup. C'est que là, il y a Angela Merkel, qui est l'ancienne chancelière allemande. Et là, je me suis bien amusée. Au moment où je prends la photo, on a l'impression qu'ils vont s'embrasser. Donc, quelque part, oui, peut-être que le sous-titre, c'est « Ah, Angela Merkel et François Hollande sont un couple ». Non, c'est faux. Et donc, il y a des fois, on peut s'amuser, et vraiment. Mais et puis, des fois, il y a des sujets sérieux, et il faut les prendre, évidemment, très sérieusement. Quand on prend une photo, on fait des choix. Je peux prendre un élément et en effet, donner un sens différent. C'est un exemple un petit peu superficiel, mais dans les magazines un peu people, on va dire... On peut faire parler les célébrités en disant qu'elles sont tristes parce qu'au moment où on les prend photo, elles sont en train de baisser le regard et d'avoir une mine un peu déconfite. Et puis juste après, y en a un qui raconte une blague et tout d'un coup, il sourit. Et là, le magazine People va dire « Ah non, mais ils sont très heureux. » Donc on peut dire tout n'importe quoi en fait. Bon là c'est anecdotique, mais c'est vrai qu'en tant que photographe et photojournaliste au service de l'information, faut faire attention de ce qu'on veut dire, sachant qu'on a aussi nous nos opinions, on est humain, qu'il y a peut-être des choses trop belles qu'on n'a pas envie de faire passer comme belles. Une photo ça peut être esthétique, mais peut-être que l'information ou ce qui se passe devant nous, on la trouve pas très belle. Donc qu'est-ce qu'on fait? Et puis des fois la photo elle est pas censée être belle, elle doit dire quelque chose ou raconter quelque chose d'important. Dans le journalisme, il n'y a pas de vérité. Il y a une honnêteté. Voilà. On est honnête, le plus honnête possible, et en effet avec une éthique au maximum. Voilà. Donc on essaie d'être le plus honnête possible.
Merci beaucoup Laure, et merci à Cita pour le micro. Merci tous les enfants.
Reportage dans mon cartable. Reportage dans mon cartable. Radio Cartable. La radio des écoles d'Ivry.
Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4 et c'était Radio Cartable, la radio des enfants des écoles d'Ivry. Et je vous dis que la semaine prochaine, nous aurons une émission inédite à partir de 14h.
C'est maintenant que tu captes. J'ai le miel d'une épaule. Tu m'entends, tu décolles. Pour changer de vie, j'ai dû hausser le ton. Trop de flow, moula. Bah ouais, bah ouais. Je repère plus, je connais tous les chemins. Toi, fais que des traînes, des sons sans lendemain. Quand je perds, ça te fait un peu de changement. Tu reconnais, mon la DPS MY Kamé. T'es pas dans le game comme fantassin, c'est régalé.
J't'ai dit, je l'ai pas l'air. Avant le skill signé, fallait. J'ai les pieds sur terre, la vision d'elle.
Il ne peut pas m'égaler. Hello. Bah ouais.
La rose de chez Nini. À Isaline Rémy, femme de lettres. Au cœur de la paume a surgi la rose. De son sable antique, la fleur de sagesse fait briller la main qui sut deviner la beauté d'une âme. Brisant les frontières, deux regards intenses dialoguent au désert. Le sourire des cœurs invite au silence. Ils se sont rejoints, ces deux univers, dans le vrai langage, lumière impalpable qui unit sans trêve les humains en marche. Ils se reverront, elle, automne clair d'un pays nanti, lui, enfant promesse, dont le geste pur a dit la grandeur d'un peuple au futur déjà millénaire.
Ni mangé par les requins, mais de goûter la liberté.
Nocte mi dormo questos nuba, rigardas mi supren de terra ti suba, la nuba mi capto sien bona ide. Dum nocte mi dormo sur gi, kial ne? Kial ne?
J'écris mes rêves au crayon, un papier sur des supports qui s'envolent à mesure que je survole des directions de destinée. C'est un éternel brouillon que forment mes maigres ambitions. À défaut de les poursuivre, je les consigne dans un livre. Je griffonne la gomme au doigt. Des fois que je n'y arrive pas, je pourrais dire, voyez, tout cela n'existait pas. J'écris mes rêves au crayon, à papier, entre les listes de choses à faire, que j'augmente de ce que je pourrais me souhaiter. Je ne saurais pas rêver la lune, car j'ai le doute comme une enclume qui me forge l'inhibition et de pauvres ailes en carton. Qui aurait-il à craindre à choisir le stylo malin, enfin délaisser fixer un horizon. Mais je crains pour ma boussole, des fois qu'elle devienne un peu folle. Si je ne choisissais un cap, un avenir où tu t'échappes, si j'allais un peu plus loin, vers d'autres chemins que les tiens, à chasser mes idées noires et avoir un boulevard d'espoir. Peu m'importe d'être parvenu à incarner des rêves têtus. Je ne veux pas me trouver là où je t'aurais perdu.
Clinance Comedomed Peeling, dès le premier jour, ma peau est déjà plus clean. Résultat ?
Bonjour.
bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous allez écouter l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère Marie Marchand. Notre invité du jour s'appelle Pierre Mikhaïlov. Il vient de publier aux éditions Héliopole Morgane son 6e roman. Et il a publié en 2025 L'année du Tekel, un roman parodique que j'ai pour ma part beaucoup aimé, toujours aux éditions Héliopole. Pierre Mikhaïlov a un véritable univers romanesque. Son métier de critique musicale lui permet peut-être de se mettre au diapason de ses personnages et d'adopter d'emblée la bonne tonalité. Ses romans se lisent d'une traite, un peu comme des polars américains ou comme des nouvelles de Marcel Aimé. Mais c'est à vous de découvrir l'humour, un rien décalé de cet écrivain buissonnier, assurément un réfractaire à l'esprit moutonnier et un flâneur invétéré du bitume et du macadam. Bref, voici un authentique romancier qui, j'en suis sûr, vous embarquera immédiatement dans ses traversées de la vie. Pierre Mikhaïlov, bonjour.
Bonjour. Bonjour Valère.
Vous venez de publier Morgane aux éditions Héliopole Littérature. Donc ça, c'est un deuxième roman parce que vous aviez publié un autre roman aux éditions Héliopole, L'année du Tekel. Je pense que c'est en 2025.
Hein. Exactement, 2025, exactement.
Et donc là, on va commencer par parler de Morgane. Donc Morgane et L'année du Tekel, ce sont deux romans qui sont parus dans la collection Littérature des éditions Héliopole. Alors, Pierre Mikhaïlov, vous êtes romancier, mais alors vous avez plein de cordes à votre arc, hein, vous qui êtes guitariste, ça tombe bien. Alors vous êtes écrivain, journaliste, biographe, critique musicale et même scénariste. Et il semble que l'écriture et la musique soient deux mots clés dans votre parcours. Est-ce que finalement, moi je me suis posé la question, pour ça que je vous interroge un peu sur votre parcours, est-ce que votre parcours finalement ne ressemble pas à celui de vos personnages, Pierre Mikhaïlov ?
Alors, moi, il y a forcément un petit peu de moi dans mes personnages. Ça dépend de quel personnage vous parlez en particulier.
C'est un peu les narrateurs. Je pense à celui pour L'année du Tekel. Le narrateur qui est quand même un journaliste, qui est un freelance, qui est comme vous.
Oui, alors effectivement, pour L'année du Tekel, comme par hasard, le personnage principal, le narrateur, est un journaliste freelance qui se bouscule un peu, se secoue un peu pour rendre ses articles à temps. Ce qui est toujours la hantise du journaliste, c'est de rendre ses papiers dans les délais avec le rédacteur en chef qui envoie des petits mails de temps en temps pour savoir si ça avance, s'il aura bien son papier à temps. Donc ça, c'est la petite angoisse du journaliste que j'ai traité dans L'année du Tekel de façon un peu humoristique. Et contrairement au narrateur, moi j'arrive à rendre mes articles à temps, parce que le narrateur du Tekel est évidemment, sa vie est empoisonnée par deux amis ou faux amis qui vont squatter chez lui un peu trop longtemps.
Et oui, voilà.
Avec un tekel.
Alors votre parcours, oui, quand même, vous avez été guitariste, vous avez fait partie d'un groupe, les Désaxés. Alors ça s'invente pas. Je crois que c'était en juin 1982. Racontez-nous un peu cette expérience. Est-ce que cette expérience a changé aussi votre écriture par la suite, l'a nourrie? Vous avez commencé quand même par la musique.
Oui, alors j'ai commencé par la musique, effectivement. En 82, je rejoins ce groupe qui s'appelait les Désaxés, dont on commençait un peu à parler sur Paris et qui a commencé à avoir un petit peu de presse dans des magazines comme Rock and Folk par exemple. Et je vois une petite annonce passer, et cette petite annonce annonçait que les Désaxés cherchaient un guitariste. Et je les contacte, on se voit. Alors là, ce qui était important à l'époque, c'était les disques qu'on écoutait. Donc la première chose qu'ils ont faite, c'est de passer en revue ma discothèque et de voir si j'avais les bons disques, les bonnes références. Comme tout allait bien de ce côté-là. Après, ils m'ont demandé de jouer de la guitare et ça s'est bien passé aussi pour la petite audition. Et ça, tout s'est enchaîné très vite parce que une semaine après, il y avait des concerts à faire. Donc j'avais une semaine pour apprendre leur répertoire et c'était un concert important parce que c'était la première partie du guitariste des New York Dolls, Sylvain, un New Yorkais qui était de passage à Paris, et il fallait faire sa première partie au Gibus. Donc pour nous, c'était un peu magique parce qu'on était tous des fans de ce groupe, les New York Dolls, qui avait été finalement un groupe météorite qui s'était séparé au bout de deux albums en 1974, mais qui a finalement influencé